Bonjour à toutes et à tous, Christophe Gravreau au micro d'IDFM Radio. Bienvenue dans notre balade musicale. Je suis ravi de vous retrouver et de passer une heure en musique avec vous jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'essentiel de notre émission à un trio mythique. Robert Schumann, sa femme et inspiratrice Clara et Johannes Brahms. Avec la parution de deux albums, le très émouvant hommage à Clara Schumann de la mezzo-soprano Alice Ferrière et le magnifique Schumann Chant du Crépuscule au cœur du romantisme allemand par la violoniste Ariane Grandjean et le pianiste Laurent Cabasso qui sont tous les deux nos invités sur IDFM Radio. En fin d'émission, il y aura même du jazz, un très bel hommage à une autre grande dame de la musique, Ella Fitzgerald par Robin McKeel. Bonjour Ariane Grandjean.
Bonjour.
Bonjour Laurent Cabasso.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre balade musicale sur IDFM Radio. Ariane, vous êtes violoniste, diplômée du Conservatoire de Rotterdam dans la classe de Jean-Jacques Kantorov. Vous avez travaillé en masterclass avec Yehudi Menuhin. Votre activité musicale est essentiellement orientée vers la musique de chambre. Vous êtes produite en concert avec Maria João Pires, Augustin Dumay, Gérard Cosset, et vous jouez régulièrement en sonate avec justement Laurent Cabasso. Et vous, Laurent Cabasso, après une formation au CNSM de Paris avec Yvonne Loriot, Jean Hubeau, Christian Ivaldi en musique de chambre, vous vous perfectionnez avec une disciple d'Arthur Schnabel, Maria Curcio. Vous êtes lauréat de grands concours internationaux. C'est le début d'une carrière internationale et vous avez à votre actif divers enregistrements en musique de chambre et en solo. Vous étiez d'ailleurs venu à ce micro présenter votre intégrale des toccatas de Jean-Sébastien Bach, parue chez Parati, qui a fait l'objet d'un accueil très chaleureux de la part de la critique et aussi du public. Et aujourd'hui, tous les deux, vous publiez Schumann, Chant du Crépuscule, sous le label Parati, avec les deuxième et troisième sonates pour violon de Robert Schumann, la sonate FAE de Dietrich, Brahms et Robert Schumann, et trois romances de Clara Schumann. Alors, une première question qui me vient à l'esprit. Pourquoi ce titre de votre album, Schumann, Chant du Crépuscule, Ariane et Laurent?
Eh bien, Chant du le Crépuscule, en fait, c'est une... Comme l'explique d'ailleurs très bien Brigitte François Sapé dans le texte de livret qu'elle nous a fait, la dernière lueur avant la fin, en fait, la fin du jour ou la fin de la vie, et c'était le cas pour Schumann. C'était vraiment, il se trouve que autour d'une période très très réduite, en automne 53, 1853, Schumann qui était entouré donc de personnes très proches, dont Joachim, à qui il a dédié...
Qui était
donc un très grand Joseph Joachim, violoniste, qui est dédicataire notamment des concertos de Schumann et Robert Schumann et Johannes Brahms. Ce qui était une star à l'époque. Et donc il y a eu toute une série de d'œuvres pour violon et piano qui ont été écrites à ce moment-là et qui ont été les dernières finalement les derniers moments lumineux de Robert Schumann avant le plongeon et les années ensuite d'internement.
Le plongeon dans le Rhin
déjà et quelques mois après et ensuite l'internement dans un endroit où il a fini sa vie en fait.
Grâce à vous, on va se transporter dans le salon familial du couple Clara et Robert Schumann, fin octobre 1853 à Düsseldorf. Clara est au piano et Joseph Joachim est au violon. Mais on va écouter tout de suite le final de la sonate numéro 2 en ré mineur de Schumann, mais évidemment par nos deux invités, Ariane Grandjean, violon, Laurent Cabasso, piano, puisque bien évidemment, le disque n'existait pas à cette époque.
Thank you.
C'était le final de la sonate numéro 2 pour violon et piano de Robert Schumann, un extrait du nouveau disque de nos deux invités, Ariane Grandjean et Laurent Cabasso, Schumann, Chant du Crépuscule, paru sous le label Parati. Quelques mots sur cette seconde sonate de Schumann, Ariane?
Alors, c'est la seule œuvre du CD qui n'est pas écrite à ce moment-là, mais qui a été créée à ce moment-là, qui n'est pas non plus dédiée à Joachim, mais qui a été créée par Joachim. Elle avait été écrite en 1851, une semaine ou deux après la première sonate, et dédiée à Ferdinand David, qui était un violoniste concertmeister à Leipzig, qui connaissait par Félix Mendelssohn. Et en fait, il ne l'a jamais créée. Pourquoi, on ne sait pas. Schumann préférait nettement d'ailleurs cette sonate, deuxième sonate, à la première. Il l'a écrite, on le voit dans sa correspondance. Et mais elle a été écrite que, elle est, pardon, créée que fin octobre 53 avec Joachim et Clara, évidemment, qui a par contre créé toutes ses œuvres. Voilà. Et c'était autour de cette rencontre et de ce concert, et notamment un concert où Joachim venait jouer la fantaisie de Robert Schumann pour violon et orchestre à Düsseldorf, que tout s'est passé, en fait. Et c'était un roman, quoi. C'est toute une histoire. Il y a eu autour de cela la rencontre avec Johannes Brahms. C'est vraiment...
Moment capital.
Moment, oui, crucial dans la vie de Brahms et du couple Schumann. Et qui a occasionné tout en fait l'écriture de la sonate FAE, ça Laurent peut-être pourra en parler, et de la troisième sonate, et donc il y avait la création aussi de la deuxième sonate à ce moment-là.
Alors revenons sur cette fameuse sonate FAE. Pourquoi ce titre qui paraît sans doute un peu énigmatique à certains de nos auditeurs?
Alors en fait c'était l'idée de Schumann, Brahms et un des étudiants de Schumann, Albert Dietrich, de faire un cadeau au grand violoniste Joseph Joachim d'une œuvre collective sans lui dire qui avait composé quoi. Et ils ont choisi comme base, disons, pour structurer cette œuvre, une devise de Joseph Joachim, Frei, aber, einsam, ce qui signifie libre mais solitaire, et les trois premières lettres, F, de chaque mot, F-A-E, correspondent à des notes musicales, Fa, La, Mi, que vous allez retrouver tout au long des quatre mouvements de cette sonate. C'est sans doute Brahms qui s'est le moins servi de ces trois notes, mais on retrouve une parenté entre le mouvement de Dietrich et le scherzo de Brahms, ce qui fait qui donne quand même une impression de structure.
Donc, premier mouvement Dietrich, donc un élève de Schumann, second mouvement
le scherzo de Johannes Brahms, le célèbre scherzo,
oui,
de la sonate.
On va écouter dans quelques instants.
Voilà. Et Schumann s'est octroyé les deux derniers mouvements qui vont lui servir de base, parce qu'une fois qu'il aura composé ses deux mouvements pour la sonate FAE, il va se dire, génial, j'ai deux mouvements, je rajoute deux mouvements et je fais ma troisième sonate.
Oui, mais alors, et Clara?
Alors,
là-dedans.
Justement.
C'est la voix des femmes.
Voilà. Oui, Clara, elle est au centre de tout, puisqu'elle a tout créé. Alors, pourquoi pas Clara, effectivement? Ils étaient quatre compositeurs. Surtout que Clara venait de reprendre la composition après des années d'arrêt, dues à deux raisons. Elle avait perdu un enfant et ça l'avait énormément marqué. Elle s'était arrêtée de composer à ce moment-là, au moins 3 ans avant. Et aussi, en fait, elle n'avait pas la place pour composer. C'est-à-dire que il a fallu qu'ils achètent, qu'ils investissent une maison plus grande. Je sais pas si c'était acheté ou loué à Düsseldorf, où elle avait sa pièce avec son piano, mais auparavant elle l'avait pas. Et en fait, elle s'occupait des enfants. Elle en avait beaucoup, et elle fallait pas qu'elle dérange son mari qui composait. Donc,
comme elle avait la primauté de l'homme, encore.
Voilà, et comme elle avait écrit 3 magnifiques romances, vraiment magnifiques romances, début juillet 1853, à l'intention de Joachim, on a choisi de la mettre quand même dans le CD parce qu'on pensait que c'était indispensable. Alors qu'effectivement, c'est la seule qui n'est pas de cette période, vraiment de fin octobre 53.
Ces romances, vous avez très bien fait. On va en entendre une à la fin de cette émission. Mais on va entendre tout de suite le scherzo composé par Johannes Brahms pour cette sonate FAE. C'est un morceau que beaucoup de musiciens jouent d'ailleurs en bis.
Oui, c'est un morceau qui était plus connu que la sonate FAE, parce que c'était une sonate FAE qui a été interdite par Clara, qui n'a pas été publiée dans le catalogue de Robert Schumann, et qui a été retrouvée finalement dans les années 1950, 35-50, ça c'est vraiment sorti dans les années 50, sauf parce que c'était dans la famille en fait de Joachim, il a autorisé 2 ans avant sa mort, il est mort en 1907, en 1905 il a autorisé à ce que le Scherzo de Brahms soit publié, mais pas le reste, parce que c'était la volonté de la veuve, enfin de Clara.
Bon. Voilà. Eh bien, on va écouter maintenant, on va vous écouter tous les deux, Ariane Grandjean, Laurent Cabasso, dans le Scherzo de Brahms, composé pour la sonate FAE. Nous écoutions le Scherzo composé par Brahms de la sonate FAE, un extrait de ce très beau disque Schumann, Chant du Crépuscule, que viennent de publier sous le label Parati la violoniste Ariane Grandjean et le pianiste Laurent Cabasso, qui sont avec nous dans le studio pour en parler. Alors Ariane et Laurent, parlons maintenant, pour cette sonate FAE, des morceaux écrits par Robert Schumann et notamment du final.
Ben, disons que autour il y a tout un mystère autour de cette troisième sonate, parce que comme vous le disions, toute cette période est une période quand même charnière et aussi très tourmentée chez Schumann. Son écriture devient de plus en plus obsessionnelle. C'est pas sans poser de problème pour les interprètes, parce que c'est une musique très complexe, très compliquée à comprendre, et aussi sur le plan instrumental, demande des moyens vraiment importants. C'est quelquefois pas du tout confortable. Mais en même temps, nous, on a été vraiment très émus en la découvrant, parce qu'il y a une faille, si vous voulez, qu'on ressent dans cette musique, et qui est justement ça qui nous émeut. Oui. Et donc, on peut dire qu'il y a des déséquilibres. C'est parfois écrit de manière un peu lourde au piano. D'ailleurs, Schumann a une tendance à mettre le violon exactement dans le registre du piano, ce qui pose des problèmes d'équilibre énormes. Si vous devez jouer ça en concert, il faut faire très attention, parce qu'on a vite fait de couvrir le violon. Alors que si vous écoutez, vous jouez Scherzo Brahms, vous pouvez jouer très fort la partie de piano, le violon passera toujours parce qu'il n'est pas dans le même registre, si vous voulez. Donc il y a des problèmes, et tout ça a entraîné qu'en fait, à la fois Joachim et également Clara ont considéré que l'œuvre n'était pas à l'avantage de Robert, et tout ça a été caché. Et je sais pas si c'est
le concerto pour violon, qui était un des plus beaux. D'ailleurs, il est à noter que pour la sonate FAE, donc il y avait trois compositeurs, Dietrich, Brahms et Schumann, et les trois ont écrit des concertos pour violon à Joachim. Et en fait, le seul qui n'a pas joué, c'est le concerto de Schumann. Et ça a été quelque chose qui l'a énormément blessé. Il a prétexté un problème de tendinite, parce qu'il était programmé en fait en janvier 1854, et ça a énormément blessé Robert Schumann. C'est un concerto qui est somptueux, peut-être un peu visionnaire, peut-être un peu avant-gardiste, on dirait maintenant. Et il faut savoir que Schumann a été très très marqué par, bien sûr, toute la musique baroque. Il était très très éperdu de Jean-Sébastien Bach. Et également, il a été très marqué par Niccolo Paganini. La dernière chose qu'il ait écrite, qu'on connaisse, le dernier témoignage qu'on ait, une fois qu'il était déjà interné, c'est un accompagnement des 24 caprices de Paganini. C'est la dernière chose qu'il ait écrite de sa main. Et ça lui a permis, il était fasciné en fait, hein, par l'homme, et qui était d'ailleurs un soutien à un moment donné. Voilà, ce qui explique la complexité aussi de l'écriture, évidemment. Et la fin de la troisième sonate s'apparente, enfin ressemble beaucoup à la fin du concerto au final de Schumann. Et c'est assez extraordinaire, c'est des grandes envolées lyriques, un peu comme des... Ouais, il y a un petit côté baroque aussi dans la prolifération de notes extrêmement rapides sur une sorte de chorale au piano. Enfin, c'est assez extraordinaire.
Oui, moi je considère que cette troisième sonate, comme d'ailleurs pour le concerto pour violon, est totalement injustement délaissée des violonistes, du répertoire. Personne ne joue ça. Et c'est vraiment dommage. Je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'on la reprend, on se dit, mais c'est quand même extraordinaire cette musique, mais très difficile à faire passer. Voilà. Donc il y avait un côté un peu militant de notre part dans l'idée de d'organiser ce programme autour de.
En tout cas, elle passe merveilleusement au disque. On sent un jeu direct chez vous. Il n'y a pas de sophistication apparente, et ça, je dois dire que c'est le bonheur de l'auditeur qui va se rendre compte en écoutant la fin de ce vigoureux final écrit initialement par Robert Schumann pour la sonate FAE. Thank you. C'était le final de la sonate FAE, écrite par Robert Schumann, interprétée idéalement par nos deux invités, Ariane Grandjean et Laurent Cabasso. Passons maintenant à cette troisième sonate, puisque Robert Schumann a écrit donc deux mouvements pour compléter les deux précédents qui étaient écrits dans la sonate FAE.
À l'origine, tout à fait. Et bah, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est une musique très exigeante pour les instrumentistes. Et alors sur ce scherzo que vous allez choisir, c'est extrémiste, je vais dire, dans le genre, parce que c'est très mal fichu sur le plan de l'écriture pianistique. Ça, c'est très retors. Il faut y passer beaucoup de temps pour que ça passe. Et puis effectivement, on y retrouve sous cette alternance, ces changements d'humeur. Il y a deux trios complètement à l'opposé de la partie brillante du scherzo et qui sont extrêmement touchants. Voilà.
Eh bien, écoutons ce scherzo, second mouvement de la sonate numéro 3 en la mineur que Schumann a écrit pour remplacer celui de Brahms, sans d'ailleurs le faire totalement oublier. Nous écoutions le scherzo, second mouvement de la troisième sonate de Robert Schumann. Alors, On va revenir maintenant sur Clara, qui avait été en quelque sorte la grande oubliée de cette sonate FAE. Mais heureusement, vous allez la réhabiliter, si je peux dire, en a-t-elle besoin d'ailleurs véritablement, avec ces trois romances que vous avez choisies pour clôturer votre très beau disque.
Voilà, ben, je pense qu'elle en a besoin. Maintenant, évidemment, jouer les femmes compositrices, ça se fait de plus en plus. Mais finalement, moi-même, j'ai découvert ces romances avec des oboïstes. En fait, nous, on pique, si j'ose dire, volontiers en tant que violoniste, les romances de Robert Schumann au oboïste, qui marchent assez bien, mais je pense pas aussi bien qu'au bois. Et un jour, par hasard, je faisais un cours de musique de chambre et les étudiants m'ont amené ces trois romances, donc qui étaient un oboïste et une pianiste. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces merveilles qu'on ne connaît pas? Et j'ai acheté tout de suite la partition, puis on l'a regardée, mais à l'époque, elles étaient très, très peu connues. Et effectivement, alors, dans la sonate FAE, quelle est la raison? Est-ce qu'il y avait, comme on dit, un petit peu d'eau dans le gaz? C'est pas impossible. Clara attendait quand même, à 34 ans, son huitième enfant.
Bravo.
Elle était sûrement un petit peu fatiguée aussi par ça. Aussi sûrement. Découragée. Je pense que ça a été un coup sur le moral parce que, même si elle a adoré cet enfant, que d'ailleurs Robert Schumann n'a pas connu, Félix, c'était un peu compliqué pour elle. Elle en avait 6 à charge parce qu'il y en avait un qui était mort. Ça faisait très très lourd. Plus un mari qui était aussi un enfant quand même et qu'elle devait vraiment seconder. Elle était au cœur, elle était la colonne vertébrale vraiment de Robert Schumann. Elle venait même jusqu'à la fin assister à ses répétitions parce qu'il était donc chef à Düsseldorf. D'ailleurs, ça a été son dernier concert avec Joachim, hein, parce qu'il s'est fait remercier, on va dire. C'était très difficile. C'était très très difficile. Elle avait beaucoup sur les épaules. Et c'est vrai que c'était très injuste. Donc nous, on a décidé quand même de réparer, parce que ce sont des romances vraiment merveilleuses. Hein. C'est la très très belle musique. Voilà.
Écoutons la troisième romance, opus 22 de Clara Schumann, par Ariane Grandjean et Laurent Cabasso, un extrait de leur album.
Thank you.
Nous écoutions la troisième romance opus 22 de Clara Schumann par nos deux invités, Ariane Grandjean, Laurent Cabasso. Vous avez des dates de concerts, de festivals tous les deux cet été?
Alors nous allons jouer le 2 juillet à 19h au festival L'Opéra au village de Pourrières. C'est dans le Var. Tout un programme autour de ce programme.
On joue
ce programme, exactement. Et puis ensuite, de mon côté, moi je fais un récital au Rayol, c'est également dans le Var, entre le Lavandou et Cavalaire.
Belle région.
Au bord de la mer. Un récital, je jouerai une toccata de Bach, les Kreisleriana de Schumann, et
justement,
les quatre impromptus de Schubert opus 90. Puis ensuite, nous nous retrouvons avec Ariane à l'Académie Festival de Tignes, où nous enseignons, et
à
nous
la
jouerons
montagne.
Le trio en ré mineur de Mendelssohn avec Mathieu Lejeune.
Très bien.
Voilà, et puis en septembre, il y a d'autres concerts qui arriveront, mais bon.
Voilà.
Parfait, mais écoutez, si nos auditeurs n'ont pas la possibilité de vous applaudir sur leur lieu de vacances, nous leur conseillons très vivement de se procurer votre album Schumann, Chant du Crépuscule, sorti chez Parati. Merci Ariane Grandjean.
Merci à vous.
Merci Laurent Cabasso.
Merci.
Bonne journée,
Christophe.
Et très bel été. Restons dans l'univers musical du couple Schumann et de Brahms, avec le nouvel enregistrement de la mezzo-soprano Alice Ferrière, hommage à Clara Schumann, sorti sous le label Cascavel. D'origine réunionnaise, Alice Ferrière est très familière de la culture germanique, après avoir étudié et vécu plus de 10 ans à Vienne en Autriche. Le programme s'articule autour des 6 leaders de l'opus 13 de Clara Schumann. Voici le très romantique « Ils s'aimaient tous deux » sur un poème de Heinrich Heine. C'était un lead de Clara Schumann par la mezzo-soprano Alice Ferrière avec au piano Nicolas Royer. Cet hommage à Clara Schumann contient évidemment des leaders de Robert Schumann parlant de l'être aimé et de l'amour. Ils sont inspirés ou dédiés directement à Clara. Le disque s'ouvre symboliquement sur Fittmung, dédicace, composé sur un magnifique poème de Rückert.
Ich mich.
Robert Schumann sur IDFM Radio par Alice Ferrière, mezzo-soprano, avec Nicolas Royer, piano. Cet album très séduisant en hommage à Clara Schumann ne pouvait naturellement pas ignorer Johannes Brahms. Le lien très fort entre les trois compositeurs est symbolisé dans le lied « Mein Liebe ist grün »« Mon amour est vert » composé par Félix Schumann, le dernier enfant de Clara et Robert, et également filleul de Brahms. Nous écoutions un lead de Brahms par Alice Ferrière et Nicolas Royer, extrait de cet hommage à Clara Schumann, dont nous écoutons maintenant un lead sur un poème de Rückert, « J'ai vu dans tes yeux ». Clara Schumann sur IDFM Radio, c'était un lied chanté par la mezzo-soprano Alice Ferrière avec le pianiste Nicolas Royer, extrait d'un très joli disque, hommage à Clara Schumann, sorti chez Cascavel. Changeons de style avec du jazz et un hommage à Ella Fitzgerald, une immense chanteuse aussi exceptionnelle dans le swing que dans les ballades. Dans Impressions of Ella, la chanteuse américaine Robin McKeel est accompagnée par un trio formidable d'où émerge l'excellent pianiste Kenny Barron. Influencé par le style d'Aretha Franklin, Tina Turner ou Nina Simone, Robin McKeel nous propose une version pleine de swing du standard How High the Moon.
I used to visit all the very gay places, those come with May places, where one relaxes on the axis of the wheel of life, to get the feel of life, from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant gay traces. They used to be there, you could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me with madness. Thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Oh yes, I was wrong. Again, I was wrong. Is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life, it's awful again, a truffle of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it all. I'll forget you, I will. While yet you're still burning inside my brain. Romance is much stifling those who strive. So I'll live a lush life in some small dive, where there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too. Forget you, I will. While yet you're still burning inside my brain. Romance is much stifling those who strive. So I live a lush life in some small dive, where there I'll be while I rot with the rest of those who.
How High the Moon par Robin McKill, extrait de son nouvel album sorti chez Doxy Records sous licence du label Naïve. Et maintenant, Embraceable You, une ballade écrite par les frères George et Ira Gershwin, incluse en 1930 dans la comédie musicale de Broadway Girl Crazy avec Fred Astaire. Un thème enregistré par de très nombreux jazzmen, de Billie Holiday à Charlie Parker, en passant naturellement par Ella Fitzgerald.
Embrace me, my irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty, naughty baby. Come to mama, mama do. My sweet embraceable you. Love all the many charms of you, and above all, darling, I want my arms about you. Naughty baby, come to mama, come to mama, dear. My sweet embraceable.
« Robin McKeel chantait un thème des frères Gershwin, Embraceable You, avec Kenny Barron au piano et les frères Peter et Kenny Washington à la basse et à la batterie dans l'excellent disque Impressions of Ella. Nous allons conclure notre émission avec April in Paris par Robin McKeel.
Chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling that no one can ever. Never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart?
Avec April in Paris par Robin McKeel, extrait d'Impressions of Ella, un très bel hommage à Ella Fitzgerald, sorti sous le label Doxy Records, nous venons de refermer notre émission. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et serai ravi de vous retrouver très vite pour une nouvelle balade musicale. Merci à Francky à la technique et bien sûr, restez à l'écoute des programmes d'IDFM Radio avec maintenant les informations.
Charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart? What have you done to my heart? April, yes, what have you done to my heart? I never knew. My heart could sing.